Chapitre 5. Où Scaramouche aboie. Je m'étais juré le matin d'être amoureux. Je tenais mon amour le soir même. Voici comment la chose se passa. Depuis quelque temps, le but choisi de mes promenades, ma solitude entre toutes aimées, était les ruines du château de Palestine, à 3/4 de lieue de la ville. C'est là, mais ne vous effrayez point de ces mots de ruines, nous ne parlerons ni d'oubliettes, ni de Tour du Nord, les ruines dont il s'agit étant des ruines toutes neuves. Monsieur le marquis achevait à peine de bâtir son château, en joli style rocaille, et les ouvriers sculptaient le dernier violon sur le dernier trumeau, quand la Révolution arriva. Cette tempête s'amusa à briser ce joujou. La mignonne bonbonnière fut démolie comme la Bastille. On saccagea, le peuple qui souffre est sans pitié, les charmilles du jardin, le temple de l'amour, le bosquet de roses. On jeta par les fenêtres les meubles de boule et les dessus de porte de boucher. On pénétra, au sacrilège, dans le boudoir bleu clair de la marquise. On brisa les cristaux de Bohême et les porcelaines de Saxe. Le verger fut détruit, la garenne bouleversée. Des nuages de poudre à la maréchale s'envolèrent, dispersés aux quatre vents du ciel, et le soir, sur la place du village, tandis que Palestine brûlait, 300 vénérables bouteilles de vin d'Aimé arrosaient à plein goulot l'arbre de la liberté. Personne n'inquiéta le marquis. À part son marquisat, c'était le meilleur des hommes. Mais sa fille, qui avait 16 ans à peine, mourut de chagrin et de saisissement en voyant détruites sous ses yeux tant de belles choses qu'elle aimait. Et depuis, disent les gens, elle revenait la nuit en robe de marquise, traînant nonchalamment ses petites mules de soie sur les terrasses envahies de lavande et s'accoudant, comme jadis, pour voir lever la lune sur les grands balustres moussus qui s'en vont pierre à pierre. Dans nos heureux pays du Midi, où jamais ne régna une bien dure féodalité, le peuple ne se souvient guère de plus loin que Louis XV. Il confond volontiers Madame de Ganges et la reine Jeanne. Les bergers de ces Noëls portent galamment le tricorne en rubané et les fantômes de ces légendes, au lieu de la classique odeur de soufre, laissent toujours derrière eux un vague parfum d'ambre et d'iris. Palestine était bien le cadre qui convenait à ce galant fantastique. Une douce et large pente s'enroulant autour du mamelon boisé sur lequel le château fut bâti avait autrefois permis aux carrosses d'arriver en trottant jusqu'à la plateforme. Le chemin abandonné montait toujours à travers les arbres, seulement son gravier s'était gazonné comme une pelouse et de nombreux lapins, friands d'herbes menues, y trottaient seuls en place des carrosses armoriées. Du côté nord cependant, la colline vous avait un air assez farouche pour faire impression sur un cerveau d'écolier. Des murs brûlés, une porte de chapelle, partout de grands rochers debout dans la mousse et les buis, et çà et là, quelques chênes d'une tournure féodale. Mais quelle surprise quand, la route tournant une dernière fois et sortant brusquement de sous les arbres, on se trouvait sur la terrasse, devant le grand portail d'honneur, neuf encore et déjà ruiné, avec le petit amour manchot qui, de son unique main, soutenait une moitié d'écusson. On apercevait de cet endroit la Provence à perte de vue et tout le long de la colline jusqu'au village tapis en bas, ce n'était plus, comme sur le versant nord, des chênes blancs, des rochers ou des buis, mais des champs de blé, de beaux oliviers debout au soleil sur leurs buttes, des genêts d'Espagne dans les coins abrités, et juste au-dessous de la terrasse, au milieu des parterres bouleversés et des haies redevenues sauvages, de grands rosiers, les rosiers de la marquise, qui avaient continué de fleurir là. Comme j'étais resté fort longtemps à considérer les pipes de mon cousin et ses pantoufles, le soir tombé quand nous arrivâmes, Scaramouche et moi, sur la terrasse de Palestine. Scaramouche était un petit épagneul tout de noir vêtu, avec une paire de lunettes couleur de braise. Nos paysans de Canteperdrie n'aiment pas les chiens, animal, disent-ils, qui mange beaucoup et ne fait guère. Mais je passais pour fou, et mon père, au grand scandale du quartier, avait cru devoir, en cette occasion, me laisser satisfaire ma folie. Je m'assis donc sur l'herbe pour réfléchir à mes projets d'amour. Scaramouche, lui, préféra se livrer au plaisir de la chasse, courant sus d'une égale ardeur aux troncs d'arbres et aux papillons de nuit. On ne voyait plus le soleil, mais tout un côté du ciel restait rouge. La lune, pâle encore au milieu des mourantes clartés du jour, devenait à chaque instant plus visible. C'était l'heure du crépuscule, si charmante aux champs, quand les oiseaux attardés, descendant par vol dans les branches, et les rainettes commençant leur chanson, le silence se fait là-haut, tandis que plus bas, tout près de la terre, la verdure et les bois pleins de chants étouffés et de bruit d'ailes préludent vaguement aux musiques de la nuit. À quelques pas de moi, appuyé sur les balustres de la terrasse, je distinguais une forme blanche. N'était-ce pas elle, la marquise, avec sa robe au fin corsage et ses cheveux longs dénoués ? Il me sembla la reconnaître et, en cherchant bien dans mes souvenirs, je découvris que son profil, ses cheveux en vapeur d'or, son galant costume et sa taille rappelaient à s'y méprendre la belle dame du paravent. Elle rêvait en regardant ses roses. Voilà que, tout à coup, ce brigand de Scaramouche tombe à l'arrêt d'un grillon. Le grillon se met à chanter, Scaramouche aboie, et l'apparition effrayée fuit bien vite en essuyant une larme. Par bonheur, la nuit arrivait, et le pan de mur sous lequel je me trouvais faisait déjà ombre au clair de lune. La marquise m'aurait infailliblement aperçu sans cela. Elle passa si près de moi, que le frisson parfumé de sa robe fit flotter mes cheveux et caressa mes lèvres. Mais, chose singulière, tout écolier que j'étais, je n'en eus pas trop de peur. Elle s'en allait, je n'osais pas la suivre. J'osais à peine marcher sur la lavande que ses pieds avaient effleurée, et quand je redescendis vers la grande route par le chemin seigneurial, plus sombre maintenant, malgré un peu de ciel clair qu'on voyait luire entre les arbres, je me sentais au cœur je ne sais quel mélange de tristesse et de contentement. Arrivé en bas, il était nuit tout à fait. L'une après l'autre, en même temps que les étoiles s'ouvraient au ciel, on voyait s'allumer les étroites fenêtres du village. Devant la maison neuve qu'il s'était bâtie, maître Cabridens, le propriétaire de Palestine, attelait son cheval et maugréait, embrouillant ses harnais dans l'ombre. Il me pria de lui donner un coup de main, puis, quand ce fut fini, « Reine, s'écria-t-il, pressons-nous, on doit nous attendre depuis une heure. » Reine, le nom de la dame aux lettres d'amour. Une voix claire répondit, qui me remua le cœur autant que ce nom de reine l'avait remué, et, la porte s'ouvrant, je vis apparaître sur le seuil illuminé, devinez qui ? Ma vision de la terrasse, Madame de Pompadour en robe blanche, ou, pour dire la vérité, Mademoiselle Reine Cabridens arrivait du couvent le jour même. Madame de Pompadour tenait à la main un bouquet d'artichauts. De voir cela, l'émotion de Jean des Figues fut telle qu'en voulant se ranger, il marcha sur la patte du brave Scaramouche. Le brave Scaramouche aboya, Mademoiselle Reine le reconnut, et devinant sans doute que son maître venait d'être l'involontaire témoin des larmes qu'elle avait versées, elle baissa les yeux en rougissant. Quand je revins à moi, la porte s'était refermée et le fanal de la voiture s'éloignait en courant dans la nuit. « Eh bien, cousin Mitre, m'écriai-je, ai-je renvoyé loin de tomber amoureux ?» J'étais au comble de l'exaltation. Un point cependant me chagrinait, un point sans plus. N'était-ce pas cet effronté Scaramouche, la cause première de mon amour, le magicien qui avait fait se rencontrer mes regards et ceux de reine ? Scaramouche, avec ses lunettes de feu, ne me paraissait pas suffisamment poétique. J'eusse préféré un sélam à la mode arabe, une fleur jetée ou bien un ruban perdu.